Vous écoutez Fréquence Mistral et aujourd'hui, nous accueillons l'association Habitat et Humanisme pour nous en parler aujourd'hui. Nous accueillons Alain Burin-Desrosiers, président de Habitat et Humanisme Alpes-Provence, et Michel Manet, secrétaire de l'association. Bonjour.
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 Bienvenue. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu l'association Habitat et Humanisme dans un premier temps, et puis plus particulièrement Habitat et Humanisme Alpes-Provence?
Mais avec plaisir. Habitat et Humanisme, c'est une fédération d'associations qui a été créée il y a 40 ans à Lyon, avec une idée, c'était de proposer des logements sociaux, donc à faible coût, à des personnes en précarité, les accompagner et que ces personnes soient logées dans des quartiers dits équilibrés pour éviter les ghettos. Donc c'est parti de Lyon il y a 40 ans et aujourd'hui ça s'est diffusé dans 56 associations départementales ou bidépartementales dans toute la France. Et Habitat Humanisme Alpes-Provence, donc notre association locale, a été créée il y a 2 ans et a eu son agrément pour proposer du logement social en février de cette année.
Et notre association couvre 2 départements, donc les Alpes-de-Provence et les Hautes-Alpes.
Très bien. Et la particularité, c'est que donc on agit en faveur du logement, mais dans un souci d'accompagner le public. Alors quel type de public et quel type d'accompagnement?
Alors le public hébergé, l'objectif, c'est les personnes en situation de précarité. Donc quelle que soit la précarité, ça peut être une précarité financière, bien sûr, mais ça peut être aussi une précarité sociale, relationnelle, difficultés vis-à-vis de l'emploi. Voilà. Donc l'objectif est vraiment de proposer un logement de qualité à ces personnes-là et à les accompagner pour que dans leur projet d'insertion, il y ait le maximum de chances de réussir. Car le logement, c'est la base, c'est la première étape pour une insertion dans la cité.
Un des premiers facteurs d'exclusion, c'est justement le logement. Le logement, d'abord, d'en avoir ou de ne pas l'avoir, et aussi la qualité du logement. Donc on insiste là-dessus. Les logements qui sont proposés par Habitat Humanisme donc, sont toujours dans les normes de qualité. Voilà, ce ne sont pas des logements insalubres ou rabais, quoi.
Et comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui partez à la recherche d'un public en précarité? Est-ce que c'est ce type de public qui va faire appel à vous? Comment ça fonctionne, la démarche?
Alors, notre démarche, pour l'instant, a été de trouver des logements. Donc, ayant eu notre agrément en février, l'objectif a été d'aller chercher des logements. Donc là, il y a 2 possibilités qui s'offrent à nous. La première, c'est que la Fédération Habitat Humanisme a ce qu'on appelle une foncière, c'est-à-dire une société qui recueille l'argent de personnes, d'individus ou même d'entreprises ou de sociétés qui souhaitent placer leur argent avec une utilité exclusive dans le logement social. Donc la première entreprise sociale
et solidaire
qui a été créée donc il y a 40 ans. Donc la foncière Habitat Humanisme, donc a de l'argent et peut acquérir des biens, des logements ou même en construire. Donc ça, c'est la première partie. Si on trouve des appartements, des logements à vendre qui correspondent aux critères de l'association, on peut solliciter la foncière pour l'acquérir. Donc là, par exemple, on a un appartement qui est en cours d'acquisition à Sisteron par la foncière. Le deuxième moyen d'obtenir des logements, c'est ce qu'on appelle les propriétaires solidaires. Alors, propriétaire solidaire, ça veut dire que un propriétaire qui a un bien, qui souhaite le louer, et le louer à une personne en précarité, donc propose ce logement à l'association Habitat et Humanisme Alpes-Provence, qui, si le logement correspond à nos normes, donc il faut qu'il soit conforme, en particulier on parle beaucoup de diagnostic énergétique actuellement, le DPE, et donc les logements qu'on propose sont en DPE D. Donc ça veut dire de bonne qualité. Et donc le propriétaire propose son logement Habitat à l'association Habitat et Humanisme Alpes-Provence, qui va le louer. Donc c'est l'association qui le loue, et l'association le sous-louera ensuite à des bénéficiaires. Donc ce qui est intéressant pour le propriétaire, c'est qu'il est assuré d'avoir un loyer tous les mois, puisque le loyer est payé par l'association Habitat Humanisme, et il est assuré qu'à la fin du contrat, donc généralement on propose un contrat de 6 ans, l'appartement sera remis en état par l'association. Voilà, donc c'est une double garantie. Puis, sachant que Michel va parler, il y a aussi des incitations financières.
Oui, dans le cadre donc Habitat Humanisme qui a développé donc l'économie sociale et solidaire, donc Habitat Humanisme, la fédération, donc est reconnue d'utilité publique. Donc ce qui fait que nous, par exemple, dans cette opération donc de propriétaire solidaire, donc non seulement le propriétaire a la garantie de son loyer et a la garantie donc de retrouver son logement dans de bonnes conditions donc à la fin du bail. Mais donc ça ouvre droit pour lui aussi, sous certaines conditions de conventionnement, à des avantages fiscaux qui ne sont pas négligeables, quoi. Ce qui fait bon, même si, en général, le propriétaire solidaire que l'on rencontre, c'est quelqu'un qui adhère à nos valeurs, qui adhère donc à nos missions. Mais en plus, donc, ces avantages fiscaux font que la décote qu'il a consentie au départ donc, est un peu compensée donc, par les aides de l'État.
Oui, alors j'ai oublié de préciser que dans propriétaire solidaire, ça veut dire que le propriétaire loue à un prix inférieur au marché. C'est ce qui fait le côté solidaire et ce qui permet de sous-louer à des personnes en précarité. Donc il y a un effort au départ, c'est-à-dire c'est pas le prix du marché, donc, mais la mission sociale est garantie et suivie.
Et comment se fait la prise de contact avec ces propriétaires ou avec le public en précarité ?
Alors pour les propriétaires solidaires, il y a deux façons. Il y a la première, la plus simple, c'est le bouche à oreille, en en parlant autour de nous. La deuxième, c'est de faire un petit peu de promotion et d'expliquer un peu ce qu'on fait. Donc c'est ce qu'on fait grâce à vous aujourd'hui. Et puis il y a une troisième façon, c'est les propriétaires peuvent s'adresser directement à la Fédération Habitat Humanisme. Et sur leur site, il y a moyen de contacter directement une personne qui est en charge des propriétés solidaires et qui redispatche l'information à l'association. Donc là, par exemple, sur l'exemple de Digne, Michel, vas-y, parle-en.
Oui, sur Digne, nous avons notre premier logement, avec un locataire d'ailleurs à l'intérieur, c'est un propriétaire solidaire. Et c'est un propriétaire solidaire, donc une personne qui connaissait Habitat et Humanisme et qui a contacté donc, au niveau de la fédération. Et la fédération donc, redescend l'information au niveau des territoires qui sont concernés. C'est sûr qu'en général, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des gens qui adhèrent donc, à ce que nous voulons faire, donc, hein, c'est-à-dire répondre à l'exclusion par le logement. Quoi.
Et pour la question des personnes hébergées, aujourd'hui, nous avons contacté différentes associations ou structures comme le CCAS, l'association Saint-Benoît-Labre, les CADA, différentes associations qui nous proposent des personnes à héberger. Et alors, dans le système de choix, donc là aussi c'est tout à fait structuré et organisé, il y a ce qu'on appelle une commission d'attribution des logements, donc qui regroupe au minimum 4 personnes de l'association sur dossier, décide de l'attribution à telle ou telle personne. Hein, ce n'est pas le fait du président ou d'une personne, etc. C'est collégialement que la décision se prend. Donc pour l'instant, on a sollicité des associations. On n'a pas fait trop de publicité parce que on a 2 logements aujourd'hui, donc on démarre. Mais on sait qu'on n'aura aucun problème à trouver des... Malheureusement, nous n'aurons aucun problème à trouver des futurs locataires.
Oui, là, la première étape, c'est de trouver donc des propriétaires et des logements.
Voilà.
Et ensuite, pour trouver des locataires, là, par contre, vous ne devriez pas avoir à chercher, à beaucoup
non.
chercher. Ouais.
Non, non.
Et alors, est-ce qu'il faut forcément passer par le biais d'une des associations, des structures partenaires que vous avez citées, ou est-ce que du bouche à oreille, pareil, on peut contacter l'association directement ?
Oh ben, y a possibilité hein, de contacter directement l'association. Ce qui est important, c'est que la personne demandeuse de logement ait fait une demande de logement social, soit inscrite dans le processus départemental d'attribution de logements sociaux. Hein, donc ça, c'est la base. Après, ben, y a des critères financiers en fonction du revenu. Et puis, il y a des critères aussi pour la commission d'attribution des logements sur le projet personnel, donc la... Le projet pour une intégration dans la ville, voire professionnelle, puisque l'objectif est bien d'aller jusqu'à l'intégration professionnelle.
Et oui, de la même façon qu'il y a des critères pour les logements, que vous ne prenez pas n'importe quel logement, il y a aussi des critères pour sélectionner les locataires.
Ben, le bénéficiaire lui-même doit adhérer aussi à la démarche. Donc c'est pour ça qu'il est accompagné. Dès le départ, d'ailleurs, dès son entrée dans le logement, on établit avec lui une fiche d'évolution pour l'avancée, dans l'intégration, dans le retour, donc intégration professionnelle, sociétale, enfin, etc. Et donc c'est un accompagnement donc progressif. Et lui-même, donc c'est sûr que si vous avez quelqu'un qui n'adhère pas à cette démarche au départ, donc il y a moins d'intérêt, quoi.
Et c'est donc l'association Habitat et Humanisme qui se charge de cet accompagnement, de toutes les étapes de cette démarche, c'est ça ?
Mais l'accompagnement est fait avec des professionnels, des travailleurs sociaux, hein, de façon bien évidemment. Ensuite, la spécificité d'Habitat et Humanisme, c'est qu'il y a des bénévoles. Il y a des bénévoles qui sont formés, hein, qui sont formés par la fédération, hein, et qui sont formés donc à l'accompagnement, comme il y a des bénévoles qui sont formés donc à la gestion locative, dans les différents domaines donc de cette activité-là. Il y a des bénévoles qui sont formés. Et donc ces bénévoles pour l'accompagnement, en l'occurrence, viennent en plus donc des travailleurs sociaux. Ils complètent le suivi.
Et pour les travailleurs sociaux. Au départ, nous travaillons avec les travailleurs sociaux des centres, des CMS, des CCAS, voire des associations. Là, on a un contact avec le CADA de Gap. Et travailleurs sociaux de ce CADA accompagnent les personnes qui vont postuler pour rentrer dans un logement. Alors, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'on était implanté de façon... sur les deux territoires, donc sur les deux départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. Nous avons un correspondant sur Digne, c'est Michel Manet. Nous avons un correspondant sur Manosque, un correspondant sur Saint-Étienne-les-Orgues, Fourcalquier, moi sur Sisteron, et deux personnes sur Gap. Voilà. Donc nous développons ces secteurs-là en fonction des forces vives que nous avons sur les deux territoires.
Et est-ce qu'on a une idée du temps que ça prend, cette démarche d'accompagnement ? C'est complètement variable en fonction des cas. Chaque cas est un cas particulier ou est-ce que...
Tout accompagnement demande de l'adaptation, c'est sûr, hein, en fonction du contexte, de la personne. Et le but de l'association, c'est justement donc de s'adapter et d'accompagner le mieux possible donc, la personne.
Est-ce qu'il y a une particularité sur les territoires du 04 et du 05 comparé aux actions sur l'ensemble de la France ? Je ne sais pas si vous avez des exemples d'autres réalisations ou si vous rencontrez des problématiques particulières ou des atouts au contraire. Sur le 04, 05, vous avez des contacts avec les autres...
Oui, bien sûr. Ouais, oui, on a des contacts. Après, la particularité 04, 05, c'est la ruralité plus les vallées. Donc pour le moment, de toute façon, nous nous concentrons sur nos... petits centres urbains que nous avons, parce que nous n'avons pas de grandes villes non plus. Et donc, on se concentre là. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, pour les personnes accompagnées, donc il faut qu'eux-mêmes aient un accès facile aux services. Donc, c'est sûr, donc, s'installer, avoir un projet dans un village un peu éloigné, donc ça paraît peu raisonnable pour le moment, en tout cas. Hein. Donc on se concentre, c'est sûr, sur les centres urbains. Hein, pour le 04, c'est sûr, c'est Digne, c'est Sisteron, Fourcalquier, bon Gap pour le 05, et puis Manosque. Alors Manosque, là, oui, il peut y avoir des projets plus importants sur Manosque qui sont à l'étude. Et on est en train d'en discuter en ce moment. Donc c'est un peu... ce sont des projets beaucoup plus ambitieux.
Alors, faut en dire deux mots. Ouais. notre projet sur Manosque, c'est la création d'une pension de famille. Donc une pension de famille, c'est un petit hébergement collectif, 25-28 studios, pour des personnes en grande fragilité, dont certaines sortent de la rue, hein, donc sans hébergement, ou qui ont été des hébergements précaires ou en voiture, ou qui dorment dans leur voiture. Et donc, premier logement pour leur permettre de se stabiliser. Donc, c'est un projet collectif, petit collectif, hein, 25-28 studios. Qui permettrait, si nous arrivons à avoir les agréments et les financements, d'avoir un projet signifiant et important pour l'association, ce qui nous permettrait aussi puisque dans ce type de projet de pension de famille, il y a l'embauche de deux travailleurs sociaux pour accompagner les personnes locataires. Donc ce serait effectivement une belle réalisation pour notre jeune association. Donc ça, c'est en bonne voie. On est en discussion, on a trouvé un propriétaire, on a un accord de principe du maire, on a un accord de principe de la foncière pour financer le projet. Bon, c'est un projet à 3 ans, hein, donc, parce qu'il y a tout à construire. Mais c'est un projet qui nous tire vers le haut, quoi.
Et si on veut soutenir justement un projet comme celui-ci, ou si on veut soutenir l'association d'une façon ou d'une autre, quels sont les différents types de soutien qu'on peut vous apporter, que ce soit être don, être bénévole, comment on fait pour qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'association et comment on vous contacte?
Alors, bien sûr, aujourd'hui nous recherchons des bénévoles, hein, et donc dans les types de bénévoles, il y a des missions qui sont identifiées. Une mission, c'est de rechercher des logements. Donc quelqu'un qui est intéressé par l'immobilier, la recherche de logements, donc ça peut être le Bon Coin, ça peut être les agences immobilières. Ça, c'est important. Hein, c'est nous apporter ce type de biens à l'achat ou à la location. Ensuite, on va rechercher des bénévoles accompagnants, hein, puisque ça y est, on a notre première personne logée donc à Digne depuis un peu plus d'un mois. On va chercher des bénévoles accompagnants sur Digne. On va le faire sur Gap aussi, puisque là, on devrait avoir notre prochaine famille. Là, ce sera une famille, puisque c'est un T3 qui est mis à disposition. Donc bénévole. Après, on peut avoir aussi des gens qui soient intéressés par l'information et la communication, donc faire savoir, faire connaître dans nos différentes villes. Et puis, bien évidemment, il y a les dons. Hein, donc, s'il y a des personnes qui souhaitent donner à l'association, elles sont toujours les bienvenues.
Oui, au sujet des dons, donc je rappelle, donc il y a une foncière reconnue d'utilité publique. Qui est apte à recevoir les dons, les legs, enfin, etc., et qui ouvre droit donc à une défiscalisation aussi. Mais dans les bénévoles, ce que l'on recherche aussi, c'est des bénévoles bricoleurs. S'il y a des gens qui aiment bien bricoler, qui ont des capacités de bricolage, donc oui, nous sommes en recherche de personnes comme ça, qui peuvent nous apporter leur aide, donc lorsqu'il y a une petite réparation à faire dans un logement, etc. Donc nous sommes bien en recherche, hein, en recherche de personnes avec ce profil-là aussi.
L'objectif des bénévoles bricoleurs étant d'accompagner les locataires dans la prise en main de leur appartement. Et donc, s'il y a une petite fuite d'eau au niveau des toilettes aussi, on va pas, évidemment, le bricoleur ne va pas rentrer sur des domaines comme l'électricité, oui, ou des choses comme ça. Donc là, mais dans ce qui est la gestion quotidienne de son appartement, c'est un accompagnement spécifique. Quoi.
Et je me pose la question de la durée aussi, si on veut accéder, je ne sais pas, si on est propriétaire d'un logement qu'on loue seulement l'été, par exemple, ou en haute saison, et qui serait disponible le reste de l'année, est-ce qu'il y a des contraintes aussi à ce niveau-là, en termes d'accessibilité au logement sur une durée, pour le bénéficiaire, est-ce que ça peut être un frein? Je ne sais pas si ça s'est déjà présenté.
Oui, il faut quand même que le logement soit disponible, normalement, donc c'est pas... Enfin, on ne peut pas sortir les personnes avant les mois d'été, enfin, etc. Non. Il faut que ce soit vraiment une
location. Ça fait partie des critères.
Voilà, ça fait partie des critères. Ensuite, pour les conventionnements, donc, on met en place, donc, il ouvre droit donc, à certains avantages et tout ça. Donc, il y a des périodes qui sont contraintes.
C'est un logement pérenne que l'on propose. Hein. Donc, il peut être sur des durées de bail renouvelables, 6 mois renouvelables, ou... bail classique 89, mais c'est certainement pas de l'alternant. Quoi, hein, donc, non, il faut que ce soit... C'est le domicile. Hein, on offre un domicile à une personne.
Et oui, le but, c'est que la situation ne soit plus précaire.
Voilà,
au contraire,
exactement.
Elle soit pérenne.
Voilà, qu'elle soit pérenne.
Ce qui peut être rassurant du point de vue du bénéficiaire, de se dire que voilà, la solution qui est proposée, non seulement est de qualité, mais en plus, permet de se projeter.
Voilà. Et alors, dans la première, dans une des premières actions, c'est sur des durées de 6 mois renouvelables plusieurs fois, mais avec un maximum de 2 ans, sachant que l'objectif est d'aider le bénéficiaire à obtenir un logement à durée indéterminée, donc bail 89. Voilà, donc c'est une première marche pour accéder, par exemple, aux logements sociaux des autres bailleurs sociaux comme H2P sur notre département.
Michel Manu, vous vouliez préciser ou corriger
Je corrigeais, c'est 36 mois, donc c'est sur 3 ans. C'est sûr que ce que l'on propose en sous-location, si vous voulez, donc c'est sortir quelqu'un de la précarité et l'amener vers un logement pérenne. D'accord ? Donc là, dans le cadre de la sous-location, donc le temps est limité. Normalement, c'est 36 mois maximum. C'est une marche. C'est pour ça qu'il y a cet accompagnement. C'est une marche donc pour aller vers donc un logement pérenne. Et il faut d'ailleurs que la personne qui rentre dans nos locations à nous ait fait une demande de logement social pour bien montrer que on est en route, quoi.
Et du point de vue par contre des bénévoles, là j'imagine qu'il n'y a pas de critères particuliers. C'est vraiment en fonction de la motivation de chacun, de la disponibilité de chacun.
Mais il y a à la fois la disponibilité et l'énergie qu'on veut bien y mettre, ça c'est sûr, ça c'est certain. Ensuite, oui, ce sont tous des domaines, encore une fois, donc on le rappelle, donc la fédération a bien ce souci-là. Ce sont des domaines où il faut se former un peu quand même. Hein. Donc il y a des choses à apprendre et tout est organisé pour ça. Donc le système de formation est organisé. Les gens ne sont pas seuls. Donc c'est toujours quand même encadré. L'accompagnement se fait aussi donc, avec des professionnels. Donc la personne d'ailleurs qui est bénévole chez nous et qui s'occupe de l'accompagnement est une assistante sociale à la retraite. Donc qui connaît son métier. Et oui, il y a des choses qui ne s'improvisent pas comme ça, quoi. Donc c'est pour ça, c'est de l'énergie qu'il faut apporter. Il faut bien être conscient donc des missions, et c'est passionnant.
Oui, et vous parliez d'une possibilité d'être formé, à ces différentes missions.
Oui, oui, il y a une école de mouvement. Hein, ça s'appelle l'école de mouvement, donc qui destine des formations, donc sur tous ces sujets.
Ça se passe comment?
C'est peut-être des formations en présentiel, donc à Lyon, mais ensuite il y a beaucoup de formations qui peuvent être en visioconférence.
D'accord, et ça c'est l'association qui le propose.
Tout à fait.
Ça n'implique pas de coût pour le bénévole.
Ah non. Ouais.
Ok. Et donc comment on pourrait vous contacter si justement il y a des personnes qui veulent bénévoler pour Habitat et Humanisme?
On doit avoir on a un site internet, donc Habitat et Humanisme Alpes-Provence, et puis par téléphone. Alors par téléphone, nous n'avons pas encore de numéro de téléphone associatif, donc ça devrait arriver. Enfin, donc pour l'instant, c'est plutôt par le site. On est une vingtaine d'adhérents sur les deux départements, et donc je vous ai dit les correspondants par ville. Donc on en a sur Gap, Veynes, Sisteron, Digne, Manosque et Saint-Étienne-les-Orgues, Fort-Galtier, pour l'instant.
Eh bien, merci beaucoup pour cette belle présentation et bonne chance pour la suite des projets. À bientôt sur Fréquence Mistral pour nous tenir à jour de vos projets.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Merci beaucoup.